Nous avons eu l'occasion de parler plusieurs fois d'un principe énoncé par le Baal Shem Tov, impliquant que chaque personne, quelle qu'elle soit, quel que soit le temps ou l'endroit dans lequel elle se trouve, se doit de tirer un enseignement de ce qu'elle voit ou de ce qu'elle entend, même si sont a priori des éléments profanes qui ont lieu autour de soi. Nous n'avons pas seulement à apprendre des livres, des textes, mais aussi des événements que nous rencontrons. Aujourd'hui, nous nous arrêterons donc sur les fondements, les bases de cet enseignement du Baal Shem Tov. Tout d'abord, nous allons rappeler un autre principe du Baal Shem Tov, ou du moins un principe fondamental du judaïsme, qui implique la Hashgacha de Dieu, c'est-à-dire la providence divine, le fait à ce que Hachem a une attention particulière pour tous les éléments de la création. Néanmoins, le Baal Shem Tov apporta une dimension nouvelle, une dimension beaucoup plus profonde et beaucoup plus précise à ce principe fondamental. Le Baal Shem Tov parla d'Hashgacha Pratit, qu'il existe une attention particulière et individuelle pour chacun des éléments de la création. Jusqu'au Baal Shem Tov, les sages pensaient que cette providence divine existait certes pour la catégorie humaine, pour les hommes, tandis que pour les minéraux, les végétaux ou les animaux, cette providence divine existait certes, mais pas à un niveau individuel, pas à un niveau particulier. C'est-à-dire que Dieu ne s'investirait pas dans les détails des lois de la nature. Il les gère, il les dirige dans leur ensemble. C'est ce qu'ils appelaient une Hashgacha sur les minimes, sur les espèces, et pas sur les éléments particuliers. Par contre, tout le monde était d'accord que cette Hashgacha pratique existait pour chaque homme, pour chaque individu, à ce que cette Hashgacha pratique, à ce que cette providence divine particulière, cette attention particulière de Dieu, avait une portée pour chaque homme individuellement. Et puis, bien sûr, cela s'inspire d'un psaume, d'un Tehilim, dans lequel le roi David dit « Mais Hashem mitzadega verkonanu » C'est de Dieu que les pas des hommes sont inspirés, sont guidés. Faut-il encore que l'homme sache choisir les bonnes opportunités sur cette voie que Dieu lui présente. C'est là où joue le libre arbitre. Et donc le Baal Shem Tov vient et nous dit que tout élément, et non seulement le genre humain, mais tout élément de la création, lui aussi, est guidé d'une manière aussi précise. Et le Baal Shem Tov est allé jusqu'à dire que lorsque nous voyons une feuille morte tourbillonner en tombant de l'arbre, en allant vers le sol, même le nombre de tourbillons qu'elle fait est quelque chose qui est décidé par Dieu, qui est voulu, et qui a à faire avec la raison d'être même du monde, la mission des hommes de parfaire le monde. S'il en est ainsi, lorsque nous voyons des événements, nous ne pouvons pas les considérer comme, ou nous entendons parler d'un événement, nous ne pouvons pas considérer cela comme quelque chose d'anodin, comme quelque chose de banal, comme quelque chose qui passe et sur lequel nous n'avons rien à nous enrichir. Détrompons-nous, nous devons apprendre de chaque chose et de chaque élément que nous entendons, que nous voyons, puisque cet élément même est guidé par Dieu. D'ailleurs, le Perkei Avot, les maximes de nos pères, rapporte un verset des psaumes qui dit « Mikol melamda iskalti » Le roi David disait « J'ai appris de tous ceux qui m'ont enseigné quelque chose. » En fait, le Perkei Avot, les maximes de nos pères, résume cela par cette phrase « Zehu Chacham » qui est le sage, c'est celui qui est prêt à apprendre de tout homme. Ce passage de Perkei Avot nous dit que nous nous devons d'apprendre de tout être humain que nous rencontrons. Et le Baal Shem Tov nous dit « Nous devons apprendre de tout élément de la création, de tout fait, de tout événement que nous rencontrons ou dont nous entendons parler. C'est bien quelque chose de qui c'est un enseignement qui va bien plus loin donc que les enseignements des sages qui l'ont précédé. Néanmoins, lorsque le Baal Shem Tov publia cet enseignement, et encore aujourd'hui, lorsque l'on cite souvent cet enseignement, ou lorsque l'on suit l'exemple du Baal Shem Tov, de s'inspirer de faits banals, profanes et anodins, comme nous le faisons d'ailleurs souvent en nous inspirant des faits de l'actualité pour tirer un enseignement, certains mettent encore en doute la véracité de cet enseignement du Baal Shem Tov, ou peut-être d'autres, avec un peu plus de tact, pensent que cela a affaire au mysticisme, ça fait partie du Pardès, du secret de l'ésotérisme, et certainement cela concerne ceux qui sont des mystiques et non pas tout un chacun. Or, nous savons bien que le Baal Shem Tov s'adressait à tous et pour tous. Et ses enseignements, même s'ils s'inspiraient peut-être souvent d'idées mystiques, il n'en reste pas moins que ses enseignements s'adressent à tous. De plus, précisément cet enseignement d'apprendre de chaque événement que nous voyons ou que nous entendons, ne trouve pas ses sources dans la mystique. Tout d'abord, nous avons vu que ça suit une certaine logique intellectuelle. Si tout élément est guidé par Dieu et que ce que Dieu fait est pour le but de la création, donc rien n'est un hasard et de cela nous devons tirer un enseignement. De plus, nous remarquons que c'est une démarche ancienne. Ainsi, dans la paracha de notre semaine, paracha Tetzaveh, Rashi use de la même démarche pour interpréter un verset, un passage, qui paraît bien difficile sans cette démarche de regarder à l'extérieur, regarder dans des gestes profanes et a priori anodins, pour en tirer un enseignement. Ainsi, dans le chapitre 28 de notre paracha, dans le verset 41, nous voyons un verset qui se trouve dans tout un contexte, dans le contexte de l'initiation des Kohanim. Moshe se devait d'initier à Aaron, son frère, ainsi les enfants de son frère, ses neveux, à la Kehuna, à la prêtrise. Pour cela, il devait donc préparer des habits avec lesquels il devait se vêtir, il devait les oindre à la manière à laquelle nous avions coutume de oindre les rois, les prêtres ou les généraux. Il devait donc les oindre et les investir de leur mission. Et le verset dit, « Vilbashta otam » et tu les habilleras, « Et Aaron achicha vet banavito » Aaron et ses enfants avec lui, « Ou macharta otam » tu les oindras, « Ou mileta et yadam » et tu leur empliras les mains. D'ailleurs, s'inspirant de Rashi, les commentateurs, les traducteurs du moins, vont traduire ou milita et yadam, tu rempliras leurs mains par tu les investiras. Vekidashta otam, tu les consacreras, vechi anoli, et ils seront pour moi des prêtres. Alors sachons que Rashi s'arrête sur ou milita et yadam, et tu les investiras. Et Rashi nous dit, kol milu yadaim, à chaque fois que ce terme est utilisé, remplir les mains, lashon chinur, c'est un terme qui signifie inauguration ou du moins initiation. Sachons que ce verset, effectivement, ne précise pas que Moshe Rabbeinu leur ait mis quelque chose dans les mains. Il mis au Kohanim, à son frère Aaron, ou à ses ou aux enfants de Aaron, quelque chose dans les mains. Il les a vêtis, des habits de Kehuna. D'ailleurs, ni les mains ni les pieds étaient vêtus chez les Kohanim. Donc ici, a priori, le verset est incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Tu leur rempliras les mains. Il devait leur oindre la tête d'huile. Il n'est pas dit qu'il devait leur badigeonner ou leur remplir la main d'huile. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire au milieu de Yadam? Rashi répond tout simplement en nous expliquant que lorsque la Torah dit « emplir les mains », ça veut dire en fait « donner ». une responsabilité à quelqu'un, charger quelqu'un d'une responsabilité. C'est la raison pour laquelle Rachid continue et dit que chez Unichnas, la davar liot mursagbo, mais otoyom valha, lorsqu'une quelqu'un prend, rentre dans une dans un rôle, dans une responsabilité à partir de ce jour, alors c'est ce que l'on appelle emplir les mains, ou belachon la az, chez Memanim Abkudak davar, et d'ailleurs, ce qui est usage en France ancienne, en France du Moyen-Âge, puisque Rashi vivait en France pendant le Moyen-Âge, il nous cite, c'est extraordinaire ce Rashi, il nous cite un événement, ou du moins un usage de l'époque. Un usage du Moyen-Âge, chez Memanim Abkudak davar, noten achalit beyado, betiachel or. Lorsque l'on veut nommer une personne pour une charge, pour un rôle dans une mission, le seigneur, le gouverneur, remet dans la main de celui qui va être investi de sa mission un gant de cuir. C'était ce qui était donc d'usage, de déposer un gant de cuir qui symboliquement représentait la mission, et ainsi on investissait la personne engagée dans cette mission. Alors, Betty Hatchel Or, Rashi le traduit en vieux français, chez Corinne Ganti, un gant. Ve aliado, et c'est bien par cela, ce hu marziko badavar, qu'il l'investit dans sa fonction. Ve Corinne leota messira, et on appelle cette transmission de pouvoir, revestir belaz, en ancien français, du moins en français de l'époque de Rashi, on appelle ça revestir, qui aujourd'hui se dit donc investir. C'est le sens que nous devons donner, donc, dit Rashi, au mot vehu milu yadaim, au mot milu yadaim, emplir les mains. Emplir les mains signifie donc investir quelqu'un. Alors, penchons-nous donc sur ce Rashi, et nous remarquons que lorsque Rashi écrit un commentaire qui d'ailleurs s'adresse aux enfants de sa communauté, nous savons bien que Rashi a écrit son commentaire pour les enfants de la communauté juive de France de l'époque. Il doit expliquer ce qui s'est passé exactement dans l'inauguration du temple et dans l'investissement et dans la prise des fonctions des Kohanim. Pour cela, un terme lui paraît difficile ou pas compréhensible. Alors, il va s'inspirer d'un événement anodin qu'il a pu voir un jour lorsqu'un seigneur a investi d'une fonction un chevalier en lui remettant un gant dans les mains, et ainsi ce gant représente symboliquement la fonction que la personne se doit d'appliquer. Cet homme qui est là, ce rabbin, qui s'appelle Rashi, qui vit au Moyen-Âge en France, voit un événement qui est a priori anodin et se dit, ce n'est pas le fruit du hasard. Si je vois cela, c'est pour en tirer un enseignement, c'est pour me servir dans mon service de Dieu. Et ainsi, un jour, lorsqu'il s'interroge sur le sens d'un verset, il s'inspirera de ce qu'il a vu un jour. Un jour, en ce passage, en voyant quelque chose qui a priori est totalement profane. Voici donc réellement une des sources simples de cet enseignement du Baal Shem Tov, qui ne prend pas sa source dans la partie ésotérique, dans la partie mystique de la Torah, mais tout simplement dans un Rashi. Nous devons d'apprendre et de tirer un enseignement de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous entendons. Cela, c'était une situation, ou du moins un état d'esprit pré-messianique, car la venue de Mashiach, c'est cette époque dans laquelle, le temps messianique, c'est cette époque dans laquelle nous pouvons voir la divinité de manière manifeste. Alors cela ne veut pas dire que nous quittons notre phase et notre situation physique, le monde matériel, bien au contraire, mais à travers les réalités et les événements du monde matériel, nous pouvons voir, nous saurons voir et nous saurons lire les actes de Dieu ou les enseignements de Dieu. Voici donc cette manière de se préparer en tirant enseignement de ce que nous voyons pour des fins élevées et importantes. Ri Adonai nous mourons, nous voir, nous mêlons, 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 nous voir, nous